Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons...
Toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de la discussion sur notre page Facebook. Bonjour! Plusieurs personnes pensent que les habiletés d'apprentissage et habitudes de travail ne sont pas les sujets les plus intéressants. Mais aujourd'hui, nous allons les rendre fascinants. Alors, mesdames, s'il y a des gens qui nous écoutent de l'extérieur de l'Ontario, ils savent même pas, possiblement, qu'est-ce que c'est que les habiletés d'apprentissage et habitudes de travail que nous appelons souvent les...
H-A-H-T.
H-A-H-T.
Ou... Parce que c'est beaucoup plus simple.
H-H.
Les H-H.
Oh, les H-H, oui, c'est vrai. Encore plus simple.
Alors, qui aimerait nous dire qu'est-ce que c'est?
Des H-H. Ah, tu veux une définition autre que juste...
Oui! Je veux savoir qu'est-ce que ça mange en hiver.
Les HH sont au nombre de 7. Et, attends, je vais essayer de les dire tous sans en oublier aucun.
Okay.
Autonomie.
Oui.
Autorégulation.
Oui.
Sens de l'initiative.
Oh, je les voulais en ordre alphabétique.
Non.
Continue.
Attends, il faut que je recommence. Autonomie,
mm-hmm.
autorégulation, sens de l'initiative, fiabilité, utilisation du français oral,
esprit de collaboration.
Wow! C'est comme le plus important.
Okay.
Très drôle. OK. Alors, ils sont au nombre de 7 et si on les dit, Vicky, on les répète parce que tu as la feuille devant toi.
On les répète. OK, on va les répéter. Utilisation du français oral. Fiabilité, sens de l'organisation, autonomie, esprit de collaboration, sens de l'initiative et autorégulation.
Voilà!
Et moi qui pensais que c'était sleepy, sneezy, grumpy.
Non.
Non.
Encore une fois,
et
non.
Prof. l'idée derrière les HAHT, c'est de pouvoir faire les apprentissages qu'on appelle un peu là, les apprentissages de vie, de manière parallèle aux apprentissages académiques. Parce que d'apprendre à être organisé, on n'a pas un cours organisation 101 à l'école élémentaire pour apprendre ces choses-là, mais ça reste que c'est des apprentissages de vie qui sont essentiels. Un enfant doit apprendre à être organisé. Un enfant doit faire preuve de fiabilité pour être capable d'avoir du succès dans ses études. Nous, en Ontario, je suis pas mal sûre que les anglophones n'ont pas l'utilisation du français oral, mais parce que nous... Tu trouves ça très drôle, pourquoi? Parce qu'ils l'ont ou ils l'ont
non,
pas?
Non, parce que... ils l'ont pas.
Mais l'idée, c'est que on s'assure que nos élèves soit dans un milieu francophone et tout, et qu'on les encourage à travailler leur francophonie par rapport
surtout
à
dans un contexte minoritaire. Alors, ça, c'est vraiment une autre mesure qu'on essaie de mettre en place pour les encourager davantage mm-hmm. à parler en français.
Oui, chez les anglophones, c'est l'utilisation du mandarin oral. Non. OK. Alors, on a déjà parlé... On a déjà parlé dans un autre épisode des résultats d'apprentissage et on avait vraiment beaucoup misé sur l'académique, puis tu avais dit que c'est deux volets comme parallèles. Mm-hmm. Parce que je pense pas qu'on l'avait mentionné lors de cet épisode, est-ce que les HAHT peuvent faire partie d'un résultat d'apprentissage ou même être un résultat d'apprentissage?
Moi, je pense que c'est important que les résultats d'apprentissage incluent les HHT parce que si on ne les évalue pas, on les enseignera pas. Alors, de savoir que si on se dit que dans la tâche qui s'en vient, dans la tâche à produire, tu as à remettre ton travail dans les délais, bien, l'enfant doit faire preuve de fiabilité à ce niveau-là. Je pense que c'est absolument essentiel à ce qu'on les inclue dans le... dans les résultats d'apprentissage.
Puis, on n'a pas besoin de toutes les mettre non plus. Comme par exemple, pour cette tâche-là, si on décide qu'il y a une HHT qui est plus importante que les autres, ou qu'on préfère observer que les autres, là, on mettrait là-dedans. C'est un petit peu la même chose comme les résultats d'apprentissage et les critères de réussite. Parce que dans les critères de réussite, tu ne peux pas tout mettre.
Non,
mais... Non, exactement. C'est puis, ça. Il y a des activités ou des leçons, des projets, des tâches qui se prêtent plus à une habitude ou habileté que l'autre.
Oui, alors, tout à fait.
Si on travaille la collaboration, c'est pas pendant que je fais la résolution de problèmes en mathématiques de façon autonome, ben, tu verras pas de collaboration.
Souvent, j'entends que les HHT, c'est très comparable ou ce qu'on appelle les compétences globales ou les compétences du 21e siècle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Mais je trouve que les HHT, c'est vraiment plus en lien. C'est plus pour promouvoir un succès académique, tandis que les compétences globales sont plus pour assurer un succès dans l'avenir, dans le monde du travail. Oui,
parce que si on regarde à long terme, les employeurs, ce qu'ils recherchent, c'est les compétences globales, pas forcément les habiletés. Mais un enfant qui a de bonnes habiletés bien développées risque de mieux performer, dans son, que ce soit au niveau social avec les autres ou que ce soit avec
ses élèves. Oui, parce qu'il y a des liens à faire entre les HHT et les compétences globales.
Absolument, comme la collaboration. Celui qu'on a oublié.
Et la communication et l'utilisation du français oral, même si l'idée de la communication, ça va plus loin que ça.
Mm-hmm.
Mais c'est juste deux façons différentes, je pense, de voir comment préparer, comment outiller nos élèves.
Tout à fait.
Alors, pour l'enseignement des HHT, parce que je pense que dans le passé, on les négligeait un peu, mais on voit de plus en plus de l'enseignement explicite.
C'est quoi? Je suis d'accord avec toi. Mm-hmm. Elles ont été pas ignorées, mais mal aimées.
Oui, mal aimé.
Mal compris aussi.
Mal compris, oui, tout à fait.
Puis d'ailleurs, je pense que, même juste pour commencer la discussion, je trouve que souvent, les gens pensent que, puis vous pouvez me corriger si j'ai pas raison, je trouve que les gens souvent pensent que vu que c'est très difficile à quantifier, eux autres, ils s'éloignent de ça.
Mm-hmm.
Ils vont dire, moi, je touche pas à ça parce que ce n'est pas quelque chose que je peux quantifier, que c'est pas quelque chose que je peux dire, oh, ça, c'est un niveau 3, ça, c'est un niveau 4. Mais je pense qu'avec notre discussion qui s'en vient là, pour les prochaines minutes, on va voir que en fait, ça peut être quantifié aussi.
J'ai une question honnête pour toi parce que, ça comme les derniers bulletins que j'ai écrits, c'était des bulletins de maternelle-jardin. Comment est-ce que les HHT sont évalués dans le bulletin? Est-ce que ce sont des acquis, non acquis? Est-ce que c'est des...
Non, c'est le...
Niveau?
Non, c'est excellent, très bien, satisfaisant.
Ah oui, c'est vrai.
Et non satisfaisant.
Ouais. OK. Alors, à ce moment-là, je peux dire que si c'est excellent, c'est 100% du temps, exactement, comme le propose le faire croître le succès.
Exactement.
Quand c'est très bien, c'est 75% du temps, etc., ou est-ce que je suis dans le champ?
Non, c'est vraiment exactement comme tu l'as dit, mais les pourcentages précis, il faudrait que j'aille chercher parce que je ne me souviens plus. Il me semblait que c'était 85 jusqu'à 100%, puis c'est 100% du temps, c'est excellent, 85 à 100, là, ça va être très bien, et après ça, on diminue dans l'échelle.
OK.
Mais c'est ça.
Alors, c'est quantifiable.
C'est quantifiable. Mais
pas aussi facile que... de dire, sur ton test, tu as eu 3 sur 10, alors tu as 30%.
Non, c'est ça.
OK.
Ouais.
OK.
Alors, quelle serait la démarche pour l'enseignement de ces habiletés-là?
Bien, à mon avis, c'est que pour que ça soit évalué, parce que c'est à être évalué, l'enfant doit être au courant, un, qu'elles existent, et deux, que qu'est-ce que je dois faire pour passer d'un niveau à l'autre. Ou parce que ce sont c'est quand même des termes qui sont plutôt abstraits. Mm-hmm. Alors, si je suis en première année et que tu me dis « Oh, j'aimerais ça que tu sois plus autonome. » OK, mais ça veut dire quoi d'être mm-hmm. autonome?
Qu'est-ce qu'on pourrait observer
chez l'élève? Exact. Qu'est-ce que tu t'attends de moi pour que je sois capable de te démontrer que je suis autonome?
Puis que, d'ailleurs, pour faire le pont avec ce que Mylène vient de dire, je trouve que, en fait, on planifie l'enseignement des HHT c'est comme si on planifiait une leçon qu'on donne habituellement. Premièrement, je trouve que c'est important de faire le diagnostic. Alors, en fait, bref, là, tu as une idée d'un HHT que toi, tu aimerais enseigner. Puis après ça, avec tes observations de ce qu'eux autres, ils font peut-être pas vraiment à la hauteur de ce que cet HHT précise, là, on peut faire un exercice avec les élèves, une discussion avec les élèves pour dire, voici ce que j'ai observé, comment est-ce que tu penses que c'est acceptable, comment c'est pas acceptable et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Alors, avec ça, alors ce qu'on vient de faire, c'est de faire un diagnostic. Et après ça, on devait avoir au milieu de faire un genre de discussion, encore une autre fois, de type, en guillemets, formatif, en disant, ah, OK, là, on est rendu à un certain point de notre mois, de notre année ou de notre semaine. Est-ce que, pensez-vous que vous avez respecté ces critères-là? Mm-hmm. Et après ça, encore une autre fois, si on dit, oh non, c'est vrai, je ne le fais pas encore, puis c'est vraiment l'amener les F à vraiment faire une réflexion sur leur HHT. Puis là, à la fin, quand c'est à la fin d'une période prescrite, là, à ce moment-là, on peut dire, OK, là, on va voir vraiment comme il faut. On va s'asseoir encore une autre fois. Ça peut être sous forme de discussion, ça peut être sous forme d'auto-évaluation, ça peut être sous forme d'évaluation par tes pairs. Là, on pourrait dire, OK, oui, ça c'est fait, ça c'est pas fait. Alors, moi, je pense que Mylène, comme par exemple, je veux dire, Mylène, toi, je pense que tu pourras mériter un T ou un E.
Mais ça, c'est tout ce qui est le processus d'évaluation.
Exactement.
Parce que si tu regardes, en fonction de ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'on a parlé dans la série d'évaluation en fonction du critère de réussite, du résultat d'apprentissage et du critère de réussite, mais cette fois-ci en lien avec le
HHT. Exactement.
Mais pour pouvoir l'évaluer, ça doit être enseigné. Je ne peux pas évaluer quelque chose sans jamais l'avoir enseigné. Mais pour le HHT, ça doit être enseigné, mais ça doit aussi être modélisé. Mm-hmm. Je dois, en tant qu'adulte, faire preuve de tout ça pour que l'enfant soit capable de me voir comme un modèle et de savoir que, ah, c'est ça que ça veut dire, être fiable, d'avoir de la fiabilité, etc. Exactement. Et ça, c'est les tableaux hantés, comme on a parlé avec les critères de réussite dans l'autre série, ou de dire... Pour être fiable, voici ce que ça veut dire être fiable et voici ce qui est observable en fonction de tout ça pour que l'enfant sache exactement où il s'en va.
Absolument. Oui, oui.
Mais ça, à mon avis, quand je fais preuve de... Je sais pas, moi, je demande à l'enfant de rédiger un poème, par exemple, comme un résultat d'apprentissage. Dans les critères de réussite, j'irais mettre un HHT, définitivement.
Oui. Probablement organisation dans ce cas-là.
Ou ça, ben, ou tout ça dépendant de ce que tu sens là. Exactement. Oui, ouais, ça pourrait être utilisé le français oral.
Ou le mandarin.
Ou le mandarin, tout à fait. Mais tout ça, c'est, ça dépend quelle est la progression que tu utilises dans ta salle de classe. Si en septembre, je sais pas, moi je travaille la structure répétée en première année, ben ça se peut que je fasse pas, que je mette pas tout de suite, je sais pas moi, l'auto-régulation des apprentissages. Comme en première année, en septembre. Parce que ça se peut que l'enfant n'ait pas ce dont ils ont besoin pour pouvoir faire preuve d'autorégulation. Oh, tout est une question de progression.
OK. Et ça m'amène à la prochaine question qui est, comment est-ce qu'on décide dans quel ordre enseigner les HHT?
C'est une hiérarchie.
Oui, ou bien est-ce que c'est mieux de le faire par... On décide par école que le septembre, au mois de septembre, c'est tout le monde qui travaille l'utilisation du français oral, ou est-ce que c'est mieux d'y aller par profil de classe?
Mais tu vois, dans différents... Je vis des différentes choses dans différentes écoles. Dans une de mes écoles, de façon générale, au niveau de l'école, on a décidé qu'on va travailler les mêmes HHT en même temps et on va les proposer de la même façon aux élèves. Alors, ils sont... Les critères de réussite sont très semblables d'une classe à l'autre. Alors, quand l'enseignant dit à un élève de sa classe, j'aimerais que tu fasses preuve de fiabilité, il sait de quoi il est question parce qu'on l'aborde le sujet maintenant. Mm-hmm. Mais même chose si je vais dans la cour à l'extérieur et que je parle à un enfant, puis je lui demande de faire preuve de fiabilité d'un élève d'une autre classe, ben il va savoir aussi de quoi je parle parce qu'ils sont aussi en train de le travailler.
Mm-hmm.
Puis ils ont des récompenses au niveau de l'école pour pour les comportements attendus à ce niveau-là. Mais j'ai aussi une école où c'est en fonction du profil de classe. Parce qu'il y a des élèves qui, je sais pas moi, c'est rare, mais il y a des élèves qui parlent français de manière complètement autonome en salle de classe. Mm-hmm. Ils n'ont pas besoin de rappel, ils n'ont pas besoin... Tout le monde parle français.
Mm-hmm.
Comme, bon, ça, c'est la classe rêvée de tous en Ontario. Mais... mais ces élèves-là, est-ce qu'on va mettre l'emphase ou une priorité sur... On va mettre une emphase, c'est sûr, mais est-ce qu'on va mettre la priorité sur l'utilisation du français oral? Ah, peut-être que non.
Mm-hmm.
Peut-être que non.
Mais j'aime beaucoup ton premier exemple. Ça ne veut pas dire que le deuxième exemple, comme tu dis, ça dépend vraiment du profil de classe. Mais j'aime beaucoup le premier exemple. Pourquoi? Parce que je trouve que ça crée tellement le sens de communauté. En disant que tout le monde, on est vraiment sur la même page. Mm-hmm. On pense de la même façon. On travaille vers la même cible aussi.
Oui.
Fait que moi, j'aime beaucoup ça. Mais encore une autre fois, ça dépend vraiment de tes besoins.
Oui.
Parce que le besoin d'une salle de classe, ce ne sera pas le même besoin que toute une école. Puis que d'ailleurs, si on s'en va un petit peu de niveau plus micro, les besoins de chaque élève n'est pas aussi la même chose que les besoins de la classe.
Oui. Mais ça dépend, par exemple. Je m'excuse, je ne veux pas te dire. Mais il y a des profils de classe qui sont très similaires aux profils d'école.
Absolument.
Alors, il y a des écoles qui, de façon générale, c'est ça, les classes sont sensiblement avec un profil semblable. Alors, de faire ça, ça leur nuit pas.
Absolument. Non. En autant que ça peut être différent, ça peut aussi être semblable.
Mm-hmm.
Oui.
Et je pense que ça fait en sorte que tout le monde a la même compréhension parmi le personnel même.
Oui.
De qu'est-ce que c'est que chaque HHT. Parce que parfois, ce qu'on aurait cru... sans avoir lu les documents en profondeur, c'est pas exactement ce que c'est que cette habitude-là.
Oui, comme par exemple l'autorégulation. Ça, c'est un bon exemple parce que l'autorégulation, quand tu es en maternelle-jardin, c'est au niveau de ton bien-être. Alors, si j'ai faim, comment je vais faire pour régler le problème? Je vais aller manger. Ouais. Si j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais aller... Voilà, quelle stratégie je peux utiliser pour l'autorégulation de mon bien-être. Mm-hmm. Mais quand tu arrives à partir de la première année, l'autorégulation, c'est par rapport aux apprentissages. Alors, qu'est-ce que je peux faire si à ce moment-là, là, j'ai pas compris déjà? Mm-hmm. Mais je te dirais que les gens qui ont fait le pivot entre le primaire ou le moyen et le préscolaire, le mot autorégulation souvent est ça mal évalué.
Oui. Oui, je suis complètement d'accord. J'ai le document sous les yeux en ce moment du Conseil scolaire Viamonde qui s'appelle Guide de l'enseignement des HHT.
Oui!
Et il est super bien fait. Oui. Et puis, les précisions après chaque habileté ou habitude, on avait parlé du pourcentage.
Mm-hmm.
Puis, j'aimerais juste clarifier pour nous en Ontario que l'excellent, c'est que l'élève démontre cette habitude de 90 à 100 % du temps. Le très bien, c'est de 75 à 90.
T'avais raison, Mylène.
Le satisfaisant, c'est de 60 à 75 % du temps. Et amélioration nécessaire, c'est lorsque c'est moins de 60 % du temps.
OK.
Mm-hmm.
Et de garder en tête que quand on entend suffisant, quand on entend le mauvais mot au départ, quand on entend satisfaisant, on est quand même sous la norme. La norme, c'est le très bien. Alors, le très bien est l'équivalent, par exemple, au niveau académique du niveau 3, ce qui fait que si tu as un satisfaisant, ça laisse croire que tu as satisfait la norme, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors, de garder ça en tête pour l'évaluation.
Oui. Oui.
Parce que nous, comme accompagnateurs, ce qu'on fait en salle de classe, c'est qu'on travaille les élèves à risque. Et les élèves qui ont satisfaisant au niveau des HHT sont techniquement considérés à risque.
Oui.
Alors ça, c'est du jargon, là, mais en gros, c'est de garder
ça. Mais je pense que c'est bien que tu apportes ce point, parce que ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est que ces habitudes et habiletés sont alignées avec l'académique. Alors, un enfant, même s'il a des niveaux 3 ou niveau 3 et 4 dans ses matières, s'il est satisfaisant ou non satisfaisant dans les HHT, il y a un risque qu'il pourrait tomber sous la norme.
Tout à fait. Mais là, parce qu'on est dans la série planification, pourquoi est-ce qu'on parle de planification? Pourquoi c'est moi qui pose des questions? Je ne sais pas. Pourquoi?
On n'a pas se poser des questions tantôt.
Parce que c'est ce qui me vient en tête. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de HHT pendant qu'on parle de planification?
Je pense que c'est si on ne planifie pas notre enseignement, ça ne se fait pas. Alors, il faut tout planifier, non seulement nos attentes et nos contenus, mais aussi planifier comment est-ce que je vais intégrer mes habiletés d'apprentissage et habitudes de travail dans mon enseignement.
Tu sais quoi, c'est tout à fait vrai. Si on en fait, on fait pas une place particulière à ça, ben on n'en fait pas l'enseignement explicite.
Ça ne sera pas là.
C'est ça, exactement. Puis l'enseignement explicite au niveau des HHT est absolument essentiel parce que, comme on a dit, l'enfant doit comprendre. Mm-hmm. Parce que moi, si tu me parles de fiabilité à 6 ans...
Ça parle aussi dans le guide d'exemples et de contre-exemples de comment est-ce que ça a l'air chez l'adulte. Et je me rappelle quand j'enseignais au jardin. Puis moi, je ne suis pas la personne la plus organisée au monde. Et j'avais une énorme salle de classe. Alors, on parlait beaucoup d'organisation, puis à chaque fois que j'oubliais quelque chose ou qu'il fallait que j'aille chercher mon stylo qui était de l'autre côté de la salle, mes élèves disaient « Madame, tu n'es pas organisée! » On avait fait cet apprentissage-là.
Ça vaudrait presque la peine d'avoir comme si un genre de gris pour l'enseignant, avec toutes les HHT. Puis après ça, au moment que c'est le temps d'écrire les bulletins, les élèves vont avoir leur HHT, évidemment, dans leur bulletin, mais l'enseignant aussi aura un bulletin de HHT. Parce que, encore une autre fois, mentalité de croissance, oui. Il faut vraiment savoir non seulement ce qu'on fait bien, mais il faut aussi voir qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi.
Très drôle.
J'aimerais ça.
Très drôle. Mais l'idée au niveau des HHT, c'est comme on a dit, il faut les planifier, mais que si on veut être efficace et que ça continue de faire du sens pour l'enfant, on peut choisir les apprentissages académiques en lien avec les HHT qu'on veut présenter. Parce qu'il y a des choses qui font du sens. Puis les HHT, comme la spiralée, on va y revenir, on va les revoir. Ah, oui, parce que je te dirais que de la première à la sixième année, la première à la douzième année, je pense, c'est les mêmes HHT. Oui, alors, absolument. Je ne vais pas demander à un élève de six ans, versus un élève de sixième année de m'offrir le même type de comportement pour le même HHT. Alors, alors, il va y avoir une progression. Je vais être beaucoup plus exigeante au niveau de, comme l'autonomie ne veut pas dire j'attache mes souliers seuls en sixième année. Tu ris, mais...
un autre point que j'aimerais ça ajouter, c'est aussi, je trouve que les HHT, ça vient partie de ta planification, mais ça vient aussi appuyer ta planification antérieure, c'est après. Hein? Antérieure. Mais tes planifications des autres unités, voilà.
Ultérieure?
Antérieure, c'est avant, ultérieure,
c'est ultérieure, après. Merci. Alors, c'est pour, la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que je pense que en observant les HHT, ça va aussi nous permettre d'expliquer le rendement d'un élève. Est-ce que l'élève ne réussit pas cette unité parce qu'il n'a vraiment pas les connaissances ou parce qu'il n'est juste pas vraiment intéressé ou parce qu'il n'était pas organisé? Fait que la prochaine fois, quand on vient à planifier une autre leçon ou une autre unité dans la même matière, là, on pourrait dire, ah, voici les HHT que je pense qui va vraiment aider, qui va vraiment appuyer l'élève à avoir un meilleur rendement. Là, on peut l'intégrer dans la prochaine. Fait que ça vient non seulement appuyer notre planification, mais ça vient définir aussi les prochaines planifications.
Très bien dit.
Oui, puis je te dirais aussi que quand on parle d'établir un objectif d'apprentissage personnel au niveau de l'évaluation, dans bien des cas, cet objectif-là va devenir un élément des HHT.
Absolument.
Parce que pour pouvoir mieux performer, par exemple, être capable de collaborer avec mes amis ou demander de l'aide ou peu importe, mais ces éléments-là sont indispensables pour pouvoir apprendre. Alors, souvent, c'est ce que moi je faisais, mais souvent dans ma salle de classe, mes objectifs d'apprentissage personnel étaient des éléments des HHT.
Qui vont les aider dans toutes les matières.
Tout à fait. C'est au Québec, et là je parle au travers de mon chapeau juste parce que j'ai fait mes études là-bas, mais c'est ce que là-bas on appelle les compétences transversales parce que c'est des compétences qui s'appliquent dans tous les domaines. Elles sont un peu différentes, mais quand même très semblables.
L'idée centrale est là.
Oui. Okay. Puis la différence entre les HHT et les compétences globales, c'est que les compétences, les HHT, elles, doivent être évaluées. Les compétences globales, non. Mais que les compétences globales, sont ce qu'on veut que l'enfant soit capable de maîtriser dans le futur. Défi quiz! C'est quoi les compétences globales? Il y en a 6, gang.
Communication.
Collaboration. Créativité. Connaissance de soi.
Métacognition.
Métacognition. Citoyenneté mondiale.
Mm-hmm.
Et...
Pensée critique, entrepreneuriat.
Et ton petit doigt. Et là. Alors, mesdames, je vous remercie et je vous félicite parce que je pense que nous avons réussi à rendre les HHT fascinants.
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Jennifer Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Un remerciement particulier à nos directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Le montage est fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Ralph Grant et enregistrée par les Productions Guérin. Les dessins du logo sont créés par Francis Fauteux et notre logo est créé par Mylène Brassard. À la prochaine!